France Culture. France Culture, avec philosophie, Géraldine Mosna-Savoie.
Cette semaine, c'est un poème du 1er siècle de notre ère, long de 12 000 vers, de 15 livres, un classique, que nous lisons avec philosophie, Les Métamorphoses d'Ovide. Et aujourd'hui, place aux métamorphoses animales. Loup, vache, génisse, mais aussi lion, oiseau ou encore araignée et j'en passe, la métamorphose est-elle un masque ou un révélateur? Nous fait-elle devenir ce que l'on est ou un autre que soi?
Au premier temps de la vache, toute seule dans son pré, elle est là. Au premier temps de la vache, il y a l'éleveur, il y a la bête et il y a moi. Et ma faim qui bat la mesure de mon estomac. Et ma faim qui bat la mesure, mesure aussi mes fins de moi. Une vache à 1 000 francs, comme ce serait charmant. Comme ce serait charmant et beaucoup plus tentant qu'une vache à 2 000 francs, une vache à 1 000 francs, une vache à 1 000 francs. Ferait le filet à 100 francs, le rhum steak à 60 francs, le gîte à 40 francs, la loyau à 30 francs, la culotte à 20 francs, une culotte à 20 francs.
Bonjour Maude Faffré-Delay. Bonjour. Vous êtes maîtresse de conférences en langue et littérature latine à l'université de Strasbourg. Vous avez travaillé sur Ovid, vous travaillez sur Ovid et récemment est paru Le bestiaire des poètes, la mise en scène de l'animal chez Lucrèce, Virgile et Ovid aux presses Sorbonne Université. Alors, je l'ai dit, Les Métamorphoses est un long poème de 15 livres. On y parcourt le récit des fondations, de la création du monde jusqu'à l'histoire de Rome. On a aussi des guerres, des exploits, des amours, bref, des affaires humaines. Et pourtant, les métamorphoses ne concernent pas seulement les humains, mais aussi les non-humains, les animaux notamment. Est-ce qu'on peut dire que Les Métamorphoses, c'est un poème presque, voilà, qui, avant de parler des humains, parle des non-humains, en fait, de tous les êtres vivants, du vivant, un poème du vivant, on pourrait dire.
Oui, c'est vraiment ça. Alors, les métamorphoses d'Ovide, c'est une manière de regarder le monde, le spectacle de la nature, et d'être attentif à tous les règnes. Donc, on va regarder les animaux, les végétaux, les minéraux, et on va se dire que derrière chaque être vivant ou non vivant qui constitue la nature, il y a une présence singulière. Et souvent, eh bien, derrière se cache un humain ou un dieu métamorphosé. Et cette manière de regarder la nature, on a pu dire « oh ben c'est de l'anthropomorphisme ».
Voilà, c'est ce que j'allais vous dire.
On voit l'homme partout. Mais en fait, c'est beaucoup plus intéressant que cela. Cette forme d'anthropomorphisme, ça veut dire qu'on va donner à chaque constituant de la nature sa place en se disant que la présence de cet arbre, de cette pierre, est importante pour le cosmos tout entier et que derrière, il y a quelqu'un. Ou quelque chose, qui s'est passé quelque chose. Donc ce sont des histoires singulières qui ont donné naissance en fait à tel animal, telle plante, tel rocher. Et derrière, il y a un individu, il y a une présence. Et c'est ça que le poète nous amène à regarder.
Donc c'est plus l'importance d'une histoire qui est à prendre en compte que de l'anthropomorphisme. On se dirait tout est humain, l'humain est à la source de tout, l'humain est tout puissant. Derrière, prenons soin d'une vache parce que derrière il y a un humain. Non, c'est pas ça en fait qui se joue.
En fait, c'est plutôt que voilà, l'homme est amené à se dire qu'il n'est pas tout seul dans la nature. Qu'il y a plein de présences individuelles autour de lui, qu'il va falloir composer avec elles, et qu'il n'est peut-être pas le centre du monde. Voilà, en fait, ce qui est très fascinant dans ce poème, c'est tous ces moments où on se retrouve face à une vache,
face à un
laurier, face à une pierre, et qu'on se dit, il y a quelqu'un derrière. Il faut essayer de
alors,
l'entendre.
Il y a d'ailleurs ce mythe dont j'ai oublié le nom, Maude Faffré-Delay, c'est le moment où une femme qui vient d'accoucher porte son nourrisson dans les bras et veut composer un bouquet et elle arrache une fleur, elle cueille plutôt une fleur, parce que le terme arraché supposerait déjà qu'elle l'a fait avec violence, cueille une fleur et là tout à coup en fait elle se transforme elle-même puisqu'en fait elle a pris la fleur d'un arbre qui était en fait une nymphe qui s'était métamorphosé en arbre. Le nom m'échappe de cette métamorphose. Mais voilà, effectivement, on doit faire presque attention. C'est à la fois de l'attention, un regard, mais aussi faire attention, c'est-à-dire presque prendre soin.
C'est ça. En fait, on doit prendre soin et bien se rendre compte qu'on est entouré d'autres présences. Donc, ça amène à une certaine humilité, en fait, et à être capable aussi de percevoir qu'il y a... Donc, pour les anciens, il y a des dieux partout dans la nature. On n'est jamais tout seul. Quand on rentre dans un bois, il y a des dieux partout. Il y a des dieux dans les arbres, dans les fleuves, dans les sources.
C'est parce qu'un peu angoissant.
Et alors, tout dépend. En fait, ces présences divines ne sont pas forcément hostiles. Mais quand vous rentrez chez les dieux, donc il y a aussi des nymphes, c'est des tas de petits dieux qui peuplent la nature. Si vous rentrez chez eux, si vous marquez que vous les respectez, que vous êtes conscient qu'ils sont là et que vous ne venez pas, par exemple, pour vous servir dans la nature en prédateur, en quelque sorte. Dans ce cas-là, si vous composez avec eux, si vous accomplissez les rites pour dire que vous venez en ami, en quelque sorte, alors ils vont pouvoir être même bienfaiteurs et vous aider. Mais il ne faut pas se comporter comme si on était seul au monde. Voilà, ça c'est sans doute quelque chose de très important dans les religions antiques et dans le poème d'Ovide. Il faut être attentif aux autres présences et se dire qu'il faut composer avec elle.
Voilà, c'est ça aussi que j'allais vous poser comme question, c'est qu'on n'est pas seulement dans la contemplation, dans l'attention, dans le regard, il y a aussi en fait des relations qui vont se nouer. J'ai parlé d'un poème du vivant, c'est un concept qui est extrêmement à la mode en philosophie. Est-ce qu'on peut le dire quand même de ce poème sans être anachronique? Est-ce que Ovide avait cette idée-là? Est-ce que c'était la philosophie de l'époque? Hier, on a parlé du monde de l'incertitude, de la vision cosmogonique qu'avait Ovide. Est-ce qu'on peut parler aussi là d'une philosophie du vivant sans voilà surinterpréter Ovide et en lui apposant ce terme après de l'incertitude de voilà du décentrement?
Oui, alors cette notion de décentrement, elle est vraiment essentielle dans le poème. Ce qu'on peut dire aussi, c'est que Ovide va nous raconter des mythes et que dans la religion romaine, c'est une religion polythéiste. Donc il y a plusieurs puissances divines qui mènent le monde et elles sont tout le temps en train de composer les unes avec les autres de manière parfois assez violente. C'est-à-dire que chaque dieu défend son territoire, son domaine d'action. Et les dieux, donc qui sont bien sûr très proches des humains, les dieux négocient sans arrêt leur sphère d'action et leur sphère d'influence. Et quand je dis négocient, ça veut dire qu'ils se font aussi la guerre pour élargir, bien sûr, leur sphère d'influence aux dépens des autres dieux. Mais parfois, ils font des alliances. Et vous voyez, les dieux aussi composent, c'est-à-dire que, par exemple, Vénus va vouloir étendre son domaine d'action, mais Jupiter va faire attention à rester un peu le maître. Et puis, Junon va vouloir tout le temps défendre ses prérogatives. Alors, elle est l'épouse de Jupiter, elle est aussi la déesse du mariage. Son mari ne cesse d'avoir des infidélités avec de toutes sortes de nymphes et toutes les belles jeunes filles qui passent. Donc chaque dieu se sent menacé dans son domaine et dans sa puissance divine et donc ne cesse de vouloir étendre sa sphère au détriment des autres. Et ça suppose des relations donc tout le temps plurielles et les dieux agissent en réseau. Et donc cette philosophie du vivant, d'accord, elle se passe en fait profondément, elle est profondément ancrée dans la religion romaine et ça amène aussi à regarder donc nos relations avec les animaux, avec les plantes, aussi comme des relations où on est en réseau, tout le monde dépend des autres, il faut faire attention. L'homme ne peut pas se dire « je suis seul au monde, tout tourne autour de moi ».
Mais là, on n'a pas l'impression qu'ils font attention, on a l'impression qu'ils se font la guerre en permanence. Vous venez de parler des dieux et de leur lutte de territoire, de sphère. Est-ce qu'en fait, on ne fait pas aussi la guerre aux autres espèces? Et d'ailleurs, voilà, il y a une multiplicité de métamorphoses, vous l'avez dit. Il y a des métamorphoses végétales, minérales, notamment animales. Quand on est métamorphosé, c'est quand même qu'on veut marquer aussi le coup, d'une certaine manière. Quelqu'un qui est métamorphosé, c'est quelqu'un qui peut avoir fauté, qu'on peut vouloir punir, qui veut pouvoir échapper à quelque chose. Je pense par exemple à Mira, qui est coupable d'inceste avec son père, qui est transformé en myrrhe. On peut penser aussi à Narcisse, qui est transformé en fleur. On a parlé de Daphné hier, qui est transformé en laurier pour échapper aux assauts d'Apollon. Mais on pourrait parler aussi des serpents, serpent, ça c'est Cadmus et sa femme, des lions Atalante et Hippomène, des cerfs Actée, on en a parlé hier, on va parler de vaches aujourd'hui, et puis tous les oiseaux, voilà je les cite, mais il y en a énormément, il y a le corbeau, corneille, cygne, chouette, hirondelle, rossignol, pie, pan, déjà pourquoi autant d'oiseaux? Et puis en fait tout ça c'est des êtres humains qu'on a transformés en êtres en non-humains pour d'une certaine manière leur faire tirer une leçon, comprendre quelque chose. Donc, ce réseau, il n'est pas égalitaire.
Oui, alors, en fait, nous, on a tendance aujourd'hui à considérer qu'il faut classer les êtres vivants. Et on a donc une grande taxinomie, donc on a des catégories dans lesquelles on va ranger les animaux, les végétaux, les minéraux. Et puis, on va donc chercher des différences qui font passer de telle à telle espèce, de telle à telle catégorie. Et ce qu'on peut dire, c'est que l'identité, elle est très fluide dans les métamorphoses d'Ovide. C'est-à-dire que selon les passions, par exemple, que vous éprouvez, effectivement, vous allez pouvoir passer d'un règne à l'autre. Donc, un humain qui va éprouver des passions donc excessives, va être amené à basculer, par exemple, dans l'animalité. Et on pourrait dire que c'est une punition. Mais d'autres humains vont être métamorphosés en animaux ou en végétaux, parfois en minéraux, pour les sauver d'un destin tragique. Vous voyez, ça peut être à double. La métamorphose peut aussi être une échappatoire. Au moment même où la mort devrait survenir, on va trouver une forme de refuge dans une autre espèce. Il y a aussi des dieux qui se métamorphosent, puisqu'on a dit tout à l'heure qu'ils sont très soucieux de leurs propres intérêts. Donc, ils vont se métamorphoser soit, alors, surtout des dieux masculins, mais ça, parfois, ça peut être aussi des dieux, des déesses féminines, pour voilà, abuser de jeunes femmes.
On va en parler tout à l'heure avec Europe.
Voilà. Oui. Ou alors, pour... Donc, pour les approcher, pour les séduire. Mais parfois aussi, les dieux se métamorphosent en animaux parce qu'ils sont menacés. Donc, il y a un passage très amusant au livre 5 où Typhon menace les dieux olympiens. Et donc, ils vont se réfugier en Égypte et ils prennent des formes animales. Et ça explique que les Égyptiens révèrent leurs dieux sous forme d'animaux. C'est parce qu'en fait, ils étaient là pour se mettre à l'abri. Donc voilà, la forme sous laquelle les anciens imaginent leurs dieux, les Grecs et les Romains, c'est plutôt la forme humaine. Et donc quand c'est sous une forme animale, c'est aussi que les dieux ont eu besoin d'un déguisement pour soit arriver à leur fin par la ruse, soit se protéger l'espace d'un moment. Mais donc vous voyez que l'identité reste très fluide.
On ne peut pas avoir une lecture univoque de la métamorphose comme punition,
non.
Comme sanction
non.
En tout cas. Mais au contraire, y voir une philosophie presque tout à fait originale de l'identité qu'on pourrait retrouver aujourd'hui comme quelque chose de fluide, d'ouvert, de multiple et surtout qui n'est jamais donné dès le début, c'est ça.
Voilà, et le fait qu'on puisse passer donc, dans un autre corps, nous amène à cette attention puisque donc on va voir l'animal ou la plante ou la roche de l'intérieur. Ça c'est aussi très très frappant dans les métamorphoses d'Ovide. On nous décrit toujours la transformation de l'intérieur parce que l'être qui se métamorphose garde la conscience de soi. Et il nous raconte ce qu'il est en train de vivre, sauf que parfois il n'a plus les mots pour le dire.
Ce qui est enfin un récit d'ailleurs incroyable, on en a parlé hier, mais c'est vrai que les métamorphoses, il faut les lire pour ça. Il y a quelque chose de l'ordre de la langue, le changement de narrateur, de perspective, de ton fait qu'on passe du tragique au comique, à l'ironique. On est vraiment dans quelque chose et puis on vit les choses comme si ces métamorphoses nous arrivaient.
Exactement, on est à l'intérieur du corps qui se change. Et on est à la fois terrorisé,
oui.
Effrayé. Donc il y a beaucoup de violence, il y a beaucoup de... On fait l'expérience de l'altérité ultime, puisqu'en fait on devient autre, alors qu'on se sent toujours soi-même à l'intérieur. Et après, le personnage métamorphosé est confronté à ses proches qui ne le reconnaissent plus.
C'est ce qu'on va voir dans les mythes qu'on a choisi d'aborder aujourd'hui, que vous avez choisi d'aborder aujourd'hui, Mopfafredelé. Néanmoins, juste, vous n'avez pas répondu à ma question, pourquoi autant d'oiseaux
dans les métamorphoses? Ah oui, les oiseaux, j'allais
voilà, y venir. Ouais, les oiseaux, les épis, tout ça. Et puis alors, c'est pas bon signe quand même, d'être métamorphosé en oiseau.
Alors, c'est intéressant que vous parliez de cygne. Pourquoi autant d'oiseaux? Alors, on sait qu'il y avait beaucoup de catalogues de métamorphoses dans la poésie hellénistique, donc la poésie grecque du 3e, 2e siècle avant Jésus-Christ. On a pensé que Ovide s'en était beaucoup inspiré. Et il y avait notamment une série de métamorphoses en oiseaux. Alors, pourquoi les oiseaux? Parce qu'en fait, les oiseaux sont des animaux à part dans la religion grecque et romaine. Chez les Romains, en fait, les oiseaux apportent des signes des dieux, justement. Quand on regarde les oiseaux, donc il y a des oiseaux dont on observe le vol et d'autres dont on écoute le chant. Et les chants des oiseaux veulent dire quelque chose. Ce n'est pas seulement une jolie musique. Souvent, les oiseaux sont les messagers des dieux. Et donc, si on sait les écouter eh bien, il nous apporte des signes qu'on a intérêt à interpréter correctement pour ne pas se retrouver justement à avoir ignoré par erreur des signes prémonitoires. Donc, il y a toute une importance des signes que nous envoient les dieux dans la religion romaine. Et quand on sait les interpréter et y répondre, à nouveau, on va pouvoir mettre les dieux de son côté. Mais il faut faire attention à ne pas se tromper. Et ben, comme tous les récits de présages, parfois, ça tourne mal. Voilà.
Est-ce que parfois, vous regardez le monde autour de vous ou écoutez le chant des oiseaux, surtout que là, le printemps voilà, va bientôt arriver, en vous disant, qu'aurait dit Ovide, qu'en aurait-il pensé, que se passerait-il dans une de ces métamorphoses?
Oui, alors c'est ce que je disais tout à l'heure, hein, c'est vraiment un poème qui invite à l'attention et à l'écoute. Mmh. Et c'est vrai que quand on écoute le chant des oiseaux, ou même quand on regarde des arbres bouger, hein, hier vous avez parlé avec Hélène Casanova-Robin de la métamorphose de Daphné en laurier, vous avez ce moment magnifique à la fin où l'arbuste penche sa cime comme une tête. Hein, donc c'est vraiment cette idée qu'on se dit, mais qui est-ce qu'il y a derrière l'arbuste et derrière les chants des oiseaux? En fait, qu'est-ce que l'oiseau veut me dire et qui parle par sa bouche? Vous voyez, il y a cette attention-là. La musique des animaux, la musique des oiseaux n'est pas que du bruit ou n'est pas que quelque chose qui nous berce dans l'Antiquité, elle est signifiante. Et donc, c'est là que je parlais d'attention et du fait que l'homme doit se dire, mais il n'y a pas que le langage articulé.
Donc, c'est plutôt pas mal, en fait, d'être métamorphosé en oiseau.
Alors,
de devenir une pie, par exemple.
Voilà, pour les... Chez Platon, hein, quand on se transforme en oiseau, c'est parce que dans sa... Donc, il y avait toute une croyance chez les Grecs, chez certains philosophes grecs à la métempsychose. C'est plutôt bien parce que ça veut dire qu'on était attiré par les idées célestes, qu'on était peut-être un philosophe. Et donc, on va se transformer dans un animal qui monte vers les cieux. Si vous avez été mauvais, cupide, tout le temps dans la jalousie et dans les idées terre-à-terre, vous allez devenir un reptile plutôt.
Oui, on va plutôt être dans l'humidité du sol.
les oiseaux... peuvent être très valorisés, bien sûr. Mais il y a des mythes de métamorphose en oiseaux qui sont des punitions parce que aussi les oiseaux jacassent sans arrêt.
Voilà, exactement. Ce terme de jacasser revient énormément. Mais donc, c'est intéressant parce qu'on voit qu'il y a effectivement une continuité quand même. On ne devient pas n'importe quel animal, végétal ou minéral. Et on va tout de suite écouter la première métamorphose animale des métamorphoses d'Ovide, c'est celle de Lycaon.
J'étais passé par l'horrifiant ménal aux cachettes de bêtes fauves, par le silène et les pinèdes gelées du lycée. Me voici au lieu et au toit inhospitalier du tyran d'Arcadie. J'entre. Les vieux crépuscules poussaient vers la nuit. Je donne signe que le dieu est venu et la foule commence à prier. D'abord, Lycaon rit des offrandes pieuses. Puis il dit « Je vais tester, en combat ouvert, si ce dieu n'est pas mortel, on ne pourra pas douter de la vérité. La nuit, je suis lourd de sommeil. Il veut me perdre de mort subite. Voici une épreuve de vérité. Cela ne lui suffit pas. Un otage envoyé de chez les Molosses, d'un trait, il lui coupe la gorge et, ses membres mi-morts, dans des eaux bouillantes, il les ramollit. Les autres, il les grille sur le feu. À peine a-t-il posé le repas sur la table que, de ma foudre de vengeance, je fais tomber le toit sur un foyer bien digne de son maître. Effrayé, celui-ci s'enfuit. Il tombe dans le silence des bois et hurle en vain, essaie de parler. La bouche en elle concentre toute la fureur rentrée. Son désir de meurtre, il l'exerce sur les troupeaux. Maintenant encore, il jouit du sang. Ses habits s'effacent en poils, ses bras en jambes. Il devient loup et garde des traces de son ancienne forme. Même blancheur, visage de même violence, même brillance dans les yeux, même image de cruauté.
Nous sommes au premier livre des Métamorphoses d'Ovide, cet extrait lu par Colin Gruel, très bien lu par Colin Gruel, on en parlait pendant qu'on l'écoutait dans la traduction de Marie Connet. On entend donc la première métamorphose animale. Est-ce que vous pouvez nous la décrire, Maud Fafredelet? Qu'est-ce qui se passe avec Lycaon, cette personne impie, féroce, cruelle, qui va être métamorphosée en loup? et qui semble nous dire quand même que la métamorphose, là, ici, semble être une punition. Enfin, là, on a quand même cette annonce dès le début.
Effectivement. Alors, la métamorphose chez Ovide, en fait, on sait toujours dans quoi le personnage va se transformer, puisque c'est annoncé par son nom. Alors, Lycaon, c'est Monsieur Loup.
Hein, donc, ouais. En ce sens, si on connaît le latin...
Il y a peu de suspense.
Oui, ouais,
c'est un mot grec, mais voilà. C'est en fait... Le nom annonce en quoi le personnage va se métamorphoser et tout l'art d'Ovide, c'est de faire naître le suspense dans une histoire qui est très connue. Alors Lycaon, vous l'avez compris, c'est un tyran d'Arcadie dont la conduite est vraiment inhumaine. Donc il bafoue toutes les lois de l'humanité.
Ouais.
Et alors surtout, il se croit le plus malin. On disait que les dieux étaient très jaloux de leur pouvoir, ils voulaient étendre leur sphère de pouvoir. Et ce tyran aussi, il pense qu'il est capable de mettre en défaut Jupiter, le maître des dieux. Donc ça va évidemment très mal tourner. Lycaon ici est victime de ce qu'on appelle l'hubris, c'est-à-dire la démesure. Hein. Il se croit plus malin que les dieux. Donc ça, en général, toutes
ça passe
ces histoires
pas du tout.
Finissent très mal.
Voilà. Alors il faut quand même rappeler qu'on est au premier livre, donc on est aussi au premier moment de l'humanité qui effectivement en fait, n'a pas encore tiré la leçon de cette puissance des dieux, tente encore en fait de se mesurer aux dieux.
Voilà, Lycaon va être pris comme exemple par Jupiter pour déclencher le déluge. Et à cause de Lycaon, l'humanité va être anéantie dans le déluge et renaîtra ensuite pour redonner une deuxième chance aux hommes. Donc ce Lycaon a vraiment fait toutes les horreurs possibles. D'abord, il reçoit chez lui Jupiter comme un hôte de passage. Donc Jupiter dissimule d'abord qu'il est un dieu. Hein, il veut mettre à l'épreuve Lycaon, dont il a entendu dire beaucoup de mal. Et effectivement, dans la lecture qui était vraiment très belle, on a l'idée qu'il est passé donc, par beaucoup d'endroits d'Arcadie, donc, qui est cette province grecque la plus ancienne, la plus sauvage. Donc l'Orifiant Ménale, le Silène, les Pinèdes gelées du lycée. Le lycée, c'est le mont du loup aussi. Hein, donc c'est de là que Lycaon, enfin c'est là que Lycaon est roi, tyran.
Alors que lycée loup.
Voilà, c'est le mont du loup. Et on a des rites qui racontent de la lycanthropie, donc des hommes qui deviennent loups et des rites peut-être anthropophages. Donc il y a tout un passé grec qui est réactivé ici, ne serait-ce que dans ces noms. Les noms portent des histoires en mythologie grecque et latine. Et on peut dire que Ovide en fait déroule le nom du mot Lycée, du mot Lycaon, et nous en fait une histoire. Alors, Jupiter arrive comme un hôte, et un hôte est sacré dans l'Antiquité grecque et romaine parce que les routes ne sont pas très sûres. Quand vous recevez un hôte chez vous, vous l'accueillez comme un fils de la maison. Et voilà que Lycaon, qui se croit le plus malin, veut montrer que Jupiter n'est pas un dieu. Alors, la meilleure façon de le faire, c'est d'essayer de le tuer dans son sommeil, parce que s'il meurt, c'est qu'il n'était pas immortel. Alors, évidemment, ça ne va pas fonctionner, puisque Jupiter est bien le maître des dieux. Et puis, il va faire quelque chose aussi de tout à fait terrible, qui montre qu'il enfreint les frontières de l'humanité. Il va vouloir servir à son hôte Jupiter un festin cannibale, puisqu'il va alors tuer un otage. Alors c'est pareil, les otages, dans l'Antiquité, c'est très différent du mot aujourd'hui. Un otage, en fait, c'est souvent le fils d'un roi avec qui on a conclu un accord et vous l'élevez dans le palais comme un de vos propres enfants. Donc c'est pas du tout un prisonnier, en fait, c'est un hôte diplomatique, vous voyez.
Ou un gage de...
Voilà, un gage de paix. Il y a bien sûr cette dimension, mais vous devez le traiter bien. Et donc, il va tuer cet otage. En plus, il y a des détails absolument macabres.
Oui, on peut le dire. Hein. On l'a entendu, voilà. Mais on peut le redire. Donc, d'un trait, il lui coupe la gorge et ses membres, mi-morts, dans des eaux bouillantes, il les ramollit et les autres, il les grille sur le feu.
Voilà, donc il y a une espèce de cuisine macabre pour savoir si Jupiter va préférer le bouilli ou le rôti. Vous voyez, donc c'est tout à fait atroce.
Oui.
Et bien
ça
sûr...
Ça nous fait beaucoup rire.
Voilà, hein. C'est tout à fait... outrancier, donc il est allé tellement loin que effectivement la métamorphose va être une punition. Alors on peut dire que la métamorphose va aussi être une sorte de révélation, puisque ce loup à l'intérieur de lui-même va acquérir le corps de l'animal qui lui correspond le mieux, au fond.
C'est là où on parlait tout à l'heure de continuité, c'est-à-dire qu'on ne devient pas n'importe quel être vivant ou minéral, d'ailleurs.
Exactement. En fait, en quelque sorte, Lycaon devient simplement un peu plus lui-même. Pour les gens qui passeraient, il vaut mieux qu'ils sachent que c'est un loup à l'intérieur en le voyant déjà dans son enveloppe corporelle. Et donc, vous avez vu, à la fin du passage, il est question du fait qu'il est en fait le même. Et dans toutes les métamorphoses, on va toujours insister beaucoup sur les éléments de continuité. Parce que nous, on se dit métamorphose, c'est un changement radical. Alors, c'est un changement radical dans certains aspects. Mais, vous rappelez, même blancheur, visage de même violence, même brillance dans les yeux, même image de cruauté. Donc là, en fait, c'est le pronom adjectif idem qui est répété. Hein. En français aussi, on dit idem, idem. Donc il intervient 4 fois à différents genres. Et ça se termine par la même image de cruauté.
Alors vous avez aussi, je le signale pour les auditeurs et auditrices, vous avez le texte français d'un côté, le texte en latin de l'autre. Donc en latin, comment ça se signale cette similitude, cette continuité qui fait qu'on ne passe pas d'une identité à une autre comme si on faisait des sauts, mais qu'il y a vraiment des continuités et une fluidité entre ce que l'on est, ce que l'on devient, ce qui fait que le même devient un autre, mais le même reste là.
Oui, ben on a encore une fois donc éadème, idem qui interviennent en tête de verre, à la coupe des verres. Et ça se termine par éadème feritatis imagos. Donc c'est l'image imago de la férocito, de la cruauté qui est un trait normalement proprement animal. Un humain ne se comporte pas comme une bête. Et si Lycaon s'est comporté en ne respectant aucune des lois qui fondent l'humanité, donc la loi qui fait que l'hôte est sacré, que l'otage est sacré, s'il a bafoué toutes les lois de la guerre, toutes les lois du genre humain, eh bien, il est l'incarnation de la feritas, donc de la sauvagerie, donc il va devenir un loup. Il y a une sorte de logique, comme vous dites, et au fond, il devient simplement davantage lui-même. Alors, je voulais revenir sur le terme « image ». Il est l'image de la férocité. Parce que le mot « imago » en latin est un mot très concret. En fait, l'imago, c'est un masque en cire, qu'on va réaliser sur le défunt, donc dans les grandes familles aristocratiques, quand quelqu'un meurt, on crée son masque en cire par empreinte hein, sur son visage et ça va garder donc les traits du défunt. Et ensuite, on va conserver cette image, on va l'exposer dans le vestibule, dans l'atrium de la maison patricienne. Et donc, les visiteurs, les clients du patron viennent et voient les grands ancêtres avec donc des traits particuliers, singuliers. Ce n'est pas des portraits idéalisés, c'est vraiment l'empreinte du visage qui garde la mémoire. Et lorsque y a donc des funérailles, eh bien, ces imagines, ces images des ancêtres, sont portées par des figurants qui s'habillent avec les attributs des plus hautes fonctions que les grands ancêtres ont tenues dans la cité. Donc, par exemple, si votre ancêtre était consul, eh bien, quelqu'un va défiler en costume de consul avec le masque. Donc, ça devait être assez impressionnant dans les rues de Rome, ces défilés.
On a du mal à l'imaginer, justement.
Et en fait, pour les jeunes gens de la famille, vous avez cette idée qu'on va suivre les traces de l'ancêtre. Donc, il y a quelque chose aussi très important dans toutes les métamorphoses de vide, c'est le terme de vestigia. Et ici, en latin...
Alors, vestiga, ça veut dire ce qui a donné vestige.
Voilà, c'est le mot qui a donné vestige. Vestigium, en latin, c'est l'empreinte de pas. Donc c'est l'empreinte, mais vous voyez aussi en relief, ça laisse une trace. Oui. Et donc il y a l'image en latin de mettre ses pas dans les pas des ancêtres.
Donc il y a encore l'idée de continuité ici.
Exactement, et aussi d'imbrication, parce que c'est comme quand il a neigé, vous savez, si on met ses pas dans les pas de quelqu'un qui est passé devant, on suit la trace, c'est plus facile. Hein, il y a l'idée d'imbrication. Donc l'image, elle s'encarre sur le visage, elle garde la marque, et on met ses pas dans les pas de l'ancêtre, et ça va être plus facile, on va pouvoir suivre les traces d'une manière très matérielle et très concrète. Et donc, dans le corps de Lycaon, on a aussi les traces de ce qu'il était avant. Et c'est aussi le mot « vestigia » qui intervient. Donc, il garde les marques, en fait, du loup qui transparaissent dans son corps humain. Et par exemple, ses yeux brillent. Vous voyez, si vous pensez à un carnassier, à un fauve comme ça, qui a les yeux brillants, cette brillance va rester dans ses yeux. Et ça veut dire qu'il est... Il est toujours là à l'intérieur, Lycaon.
Ce que je trouve fascinant, c'est que les termes d'image, tels qu'on les connaît aujourd'hui, ou le terme de métamorphose, puisqu'on en parle toute cette semaine, que c'est le titre de l'œuvre d'Ovid, on les a aussi transformés. C'est-à-dire que l'image fait souvent écran. La métamorphose est aussi un bouleversement radical. On a gardé ça en tête. Or là, si on est vraiment aux origines des termes, aux origines de la langue, en langue latine, on est vraiment au contraire dans cette idée, on l'a dit, de continuité, mais même plus que de continuité, c'est-à-dire de choix, de vouloir se mettre dans les pas de l'autre. Et l'imbrication, l'empreinte nous montre même plus qu'une sorte de coïncidence, on pourrait dire.
Oui, ça c'est très juste. Et je pense que c'est ça qui est très intéressant dans ces passages, c'est que c'est extrêmement concret. C'est très physique, c'est très incarné dans le corps.
C'est ça d'ailleurs qui nous plaît à la lecture.
Oui, je pense. On est sensible à cette dimension. Et c'est pour ça aussi qu'on peut s'imaginer le vivre. Parce qu'on part du corps qu'on a et on voit qu'il ne faudrait pas grand-chose.
Pour se métamorphoser en...
Pour en allant plus loin. Alors, je ne vais pas dire que nous sommes tous des Lycaons en puissance, mais... Non, mais en fait, on appuie... alors, je vais peut-être revenir aussi en latin sur la manière dont se passe cette métamorphose.
Oui.
En fait, Lycaon a en lui, vous l'avez compris, cette feritas, donc cette rage aussi. Le terme, c'est rabies en latin. Et cette rage est tellement intense et tellement grande qu'elle déborde de son corps humain et elle déborde par la bouche. Alors ça, c'est très intéressant.
Ouais, ouais.
C'est toujours par la bouche, souvent, que commencent les métamorphoses physiques, ou en tout cas, la bouche attire l'attention. Alors, en latin, le vers, c'est « Colligit os rabiem, solite quae scupidine caedis, utitur in pecudes ». Colligit os rabiem, ça veut dire « sa bouche concentre toute sa rage, la rage qui vient de lui ». Et donc, on a l'idée que ses lèvres humaines, ben, elles pourraient pas tenir... contenir tant de rage, la rage déborde comme si vraiment il y avait un trop-plein et donc les lèvres vont s'allonger et devenir un museau de loup. Vous voyez, quand je disais qu'on peut se l'imaginer, il y a quelque chose de l'ordre d'une continuité anatomique. On voit, alors un peu on pourrait penser à un dessin animé, d'accord, on voit les lèvres fines qui s'allongent pour devenir un museau et on voit les dents qui vont pointer et cette rage, il va l'exercer contre des troupeaux en égorgeant des moutons. On voit bien à quel point c'est en fait une pulsion de rage qui s'incarne dans un corps qui, logiquement, devient celui d'un loup parce que là, pour le coup, quel autre animal aurait pu contenir cette rage débordante ?
Et en même temps, il y a aussi, vous avez écarté l'accusation d'anthropomorphisme tout à l'heure, mais on pourrait dire aussi que c'est une manière de disqualifier l'animal, de conduire une hiérarchie entre l'animal et l'humain en disant « il n'était pas assez bon pour être humain, nous le faisons dévaler l'échelle, enfin cette hiérarchie, on le fait, on le disqualifie comme une bête, on lui enlève d'ailleurs le langage. Ça, c'est un point très important aussi dans la métamorphose, c'est qu'il y a le physique, il y a cette incarnation-là, mais d'abord, c'est quand même la perte du langage qui serait la marque de l'humanité. Donc, il y a quand même, en fait, aussi cette idée que l'animal, il est en dessous de l'humain parce qu'il n'a pas ce langage-là.
Alors, en tout cas, dans la métamorphose de Lycaon, ce qui est sûr, c'est qu'il va devenir un prédateur, donc il verse le sang, d'accord ? Donc, évidemment, face à un animal comme ça, sauvage, qui est une menace, on ne va pas avoir la même réaction que face à un bovin, par exemple, qui est un animal compagnon de labeur, on travaille avec lui pour l'agriculture, on a une vraie complicité. Donc, oui,
enfin, on le tue aussi dans l'agriculture, mais bon.
Alors, ça dépend, on va voir, oui, mais il est exploité par l'homme, mais il est aussi un compagnon. Et donc, il y a une dimension de vraie familiarité avec beaucoup d'animaux, j'allais dire presque domestiques. Alors là encore, les catégories domestiques, familiers, c'est difficile. Dans l'Antiquité, on ne met pas les animaux dans
les cases. Oui, on ne peut pas complètement plaquer notre lecture.
Mais ici, en tout cas, je vais revenir sur ce que vous avez dit sur le langage. Effectivement, Lycaon se rend compte qu'il a été métamorphosé en loup. Parce que donc Jupiter lance sa foudre sur son palais, Lycaon s'enfuit effrayé dans la campagne et veut crier, appeler à l'aide. Et le terme latin c'est en tête de ver, donc ex ululat. On entend bien ex ululat, ça veut dire qu'il veut crier au secours et il fait ouh. En fait, il est devenu un loup et il entend d'abord qu'il est devenu autre avant de le voir. Et ça, très souvent dans les métamorphoses, ça va être le cas. Le personnage effrayé veut dire quelque chose et il ne peut que crier un cri animal. Donc là, vous avez raison, c'est la manifestation du fait qu'il a basculé dans un autre règne et il ne peut plus dire autre chose que « ouh, ouh, ouh ». Et il a été puni. Mais en même temps, vous voyez que cette punition, c'est plutôt une révélation. C'est-à-dire qu'il a toujours été comme ça et il y a une véritable logique. Donc, j'ai envie de dire, il a été révélé.
Oui, donc plus qu'une, on l'a dit, plus qu'une punition où tout à coup il bascule dans le règne animal et donc il perdrait de son humanité, il faut plutôt voir qu'il gagne en animalité en fait. Il faudrait plutôt voir les choses comme ça plutôt que de dire qu'il devient une bête, comme si en fait on se disait que les bêtes étaient des sous-humains. Il faudrait plutôt dire qu'il gagne en animalité, c'est-à-dire que finalement il devient ce qu'il a à être devenant
en fait,
animal.
Il est plus à sa place à la fin de l'histoire qu'au début. Au début, c'était pas vraiment normal qu'il soit dans un environnement humain et c'était très nocif pour la population.
Donc il y a une dimension morale quand même à ce mythe.
Place, en quelque sorte.
Parce qu'on a parlé hier de la morale, c'est-à-dire que s'il y a une morale dans les métamorphoses, ça n'est pas une morale qui est théorisée, qui est exposée, mais qui est vraiment plutôt suggérée à travers l'idée quand même d'une tempérance plus que d'une prudence. Ici, il y a quand même une dimension morale, c'est-à-dire que si on fait le mal, si on se conduit mal, si on ne rend pas hommage aux dieux, eh bien, nous pouvons basculer de règne. Ça ne veut pas dire qu'on y perd, ça ne veut pas dire que c'est une punition, mais par contre, on va devoir changer de place.
Et en tout cas, ça révèle aussi quelque chose d'important dans la pensée antique, qui est ce qu'on appelle la physiognomonie, c'est-à-dire qu'on regarde le visage d'un homme et on va reconnaître à certains traits, alors surtout de son visage, mais ça peut être aussi des manières de se comporter, des parentés avec telle ou telle espèce animale, et on va le lire comme une sorte de révélateur de ce qu'il y a à l'intérieur de lui. Voilà. Et ici, c'est un peu le cas limite, le cas extrême, c'est-à-dire que on va aller jusqu'au bout de cette lecture métaphorique. Donc très souvent dans les métamorphoses d'Ovide, la métaphore, il se comporte. Donc d'abord, c'est une comparaison. Il se comporte comme un loup. Après, il est devenu loup. Et donc on va prendre une métaphore au pied de la lettre. Ça va devenir une métamorphose. Donc c'est aussi en ce sens un jeu sur le langage poétique. C'est-à-dire, si on compare quelqu'un à un animal, à une plante, à un minéral, si on fait sauter l'étude de comparaison, ça devient une métaphore. Si on allait jusqu'au bout, ça devient un autre corps, c'est une métamorphose. Allons voir jusqu'où les mots peuvent aller si on leur donne tout leur pouvoir. C'est aussi ça l'expérience des métamorphoses, voir ce que les mots veulent dire.
Cependant, Junon inspecte les campagnes. Elle cherche partout, car les tromperies de son mari, si souvent pris sur le fait, elle les connaît. Après qu'elle ne l'a pas trouvé au ciel, « Ou je me trompe, ou je suis trompée, dit-elle. » Elle glisse du haut de l'éther, se pose sur la terre et ordonne aux nuages de reculer.
Jupiter avait deviné la venue de sa femme et en radieuse génisse avait changé la fille d'Inachus.
La fille de Saturne la veut en cadeau. La rivale est donnée. Mais la déesse a encore peur, se méfie de Jupiter, s'inquiète d'une tromperie et finit par offrir la vache à Argus, le fils d'Arestor.
Argus avait une tête ceinte de 100 yeux. Deux par deux, à tour de rôle, les yeux prenaient du repos. Les autres veillaient et restaient à leur poste. Où qu'Argus se posât, il regardait Io.
Elle vient aux rives où elle avait habitude de jouer, les rives d'Inachus, et regarde dans l'eau ses cornes nouvelles. Elle s'effraie, étrangère à elle-même, recule, fuit. Les naïades ne la reconnaissent pas, Inachus ne la reconnaît pas. Qui est-elle? Mais elle suit son père et elle suit ses sœurs et se laisse toucher et s'offre à ceux qui l'admirent. Le vieil Inachus lui tend les herbes qu'il a cueillies. Elle lèche la main du père, donne des baisers dans sa paume, ne retient pas ses larmes. Si les mots suivaient, elle supplierait « à l'aide !» dirait son nom et son histoire. Les lettres, au lieu des mots, qu'elle trace du pied dans la poussière, révèlent avec tristesse son corps changé. « Que je suis malheureux !» crie le père Inachus, et aux cornes de sa fille gémissante, au cou de la génisse de neige, il s'accroche. « Que je suis malheureux, » répète-t-il. « Toi, cherchée par toutes les terres, tu es ma fille ? Je ne te trouvais pas, je t'ai trouvée. Mon chagrin était plus léger avant. Tu te tais, à mes paroles tu n'en réponds aucune. Juste tu pousses de ta profonde poitrine des soupirs. Tu ne peux que ça, tu mugis à mes mots. » Ignorant, je préparais ton lit, les torches nuptiales. J'avais en premier espoir un gendre, en second des petits-enfants. Dans un troupeau, tu prendras un homme, dans un troupeau, un fils. Mes grandes douleurs ne peuvent finir avec la mort. Hélas, je suis Dieu. La porte du trépas, qui m'est fermée, croît en un temps sans limite mes chagrins.
Culture, avec philosophie, Géraldine Mosna-Savoie.
Nous sommes toujours dans le premier livre des Métamorphoses d'Ovid, dans la traduction de Marie Conné, élue par Colin Gruel. Alors, le mythe d'Io, il est vraiment long. On a entendu un premier extrait qui était un extrait d'une adaptation Samedi Fiction sur France Culture de 2023. Io, en fait, elle était convoitée par Jupiter, Junon, sa femme, flairant bien l'infidélité. Jupiter l'a transformée en génisse. Puis, en fait, elle est condamnée à être surveillée par Argus, un monstre à centure. On l'a entendu. Puis on a entendu le texte au moment où elle essaye de dire à son père que c'est elle, sa fille Io, et qu'elle a été transformée en génie. C'est vraiment ce moment, on peut peut-être s'arrêter là-dessus, Maud Fafré-Delay, vraiment ce moment où elle essaye, non seulement elle s'est rendue compte qu'elle ne pouvait pas s'exprimer, mais elle voit sa transformation physique et elle essaye malgré tout de trouver des moyens, des signes à dire à son père.
Oui, donc on va retrouver des continuités et des grosses différences avec la première métamorphose dont on a parlé, qui est celle de Lycaon. Donc cette fois-ci, comme vous l'avez dit, Io, qui est donc une nymphe, la fille d'un dieu fleuve, donc qui s'appelle Inachus, Io a été convoitée par Jupiter, il lui a fait violence, et puis quand Junon arrive furieuse pour le prendre son époux sur le fait, en plein adultère, il l'a transformée in extremis en une génisse blanche, mais d'une blancheur tellement éclatante que Junon, qui n'est pas né de la dernière pluie et qui connaît bien son mari...
Et qui, elle, sait lire les signes.
Voilà,
en
elle
fait.
Se dit, non mais c'est pas possible, une génisse d'une telle blancheur... Il y a quelque chose dessous, il y a anguille sous roche. Et donc, elle interroge son mari, d'où est-ce qu'elle vient cette bête ? Oh, je ne sais pas, elle est née de la terre. Ah ben, donne-la-moi. Et Jupiter se dit, la pauvre, si je lui donne, elle va lui faire la vie dure. Mais il ne peut pas le refuser. Et alors, il y a un moment très amusant dans le poème où Ovid dit, s'il refusait de donner à sa femme, à la compagne de son lit, un si petit présent qu'une génisse, il aurait pu faire croire que ce n'était pas une génisse. Donc, en fait, c'est... Ceci n'est pas une vache, hein, c'est vraiment ça. Et donc, il y a une multitude de signes qui montrent, ne serait-ce que cette blancheur étincelante, qu'en fait, derrière l'animal se cache une nymphe. Parce que les nymphes sont souvent caractérisées, leur beauté est caractérisée donc par cette blancheur éclatante, hein, qui fait signe à l'intérieur du corps de la bête. Et là, on va se retrouver donc avec Io, maltraitée par Argus, qui lui fait vraiment la vie dure. Io désespérée, qui va sur les rives du fleuve, son père, donc Inachus, qui va retrouver ses sœurs, les nymphes de la nature, des eaux, et qui va tenter d'attirer leur attention. Donc elle va se comporter avec eux d'une manière étonnante. Elle va les suivre partout. Donc, il voit surgir cette génisse blanche. Il la trouve très belle, vraiment étonnante. Elle les suit partout. Donc, eux, la trouvant magnifique et si encline au contact avec des humains, ce qui est un peu étonnant parce qu'elle sort de nulle part, vont lui donner à manger. Donc, ils lui tendent des herbes. Et là, donc, elle lèche les mains de son père. Ça, c'est un geste animal. Mais ensuite, elle les embrasse. Et
donne des baisers dans sa paume.
Et là, on a le mot « oscula ». Et justement, elle fait avec ses lèvres ce qu'un animal ne ferait pas. En fait, donner un baiser, c'est un geste humain. Et elle va pleurer aussi, elle verse des larmes. Donc, normalement, si Inachus, qui est quand même un dieu, avait un tout petit peu
c'est
de
quand
clairvoyance...
Même son père est quand même ce fleuve Inachus, et il est bête dans le texte.
Il est très, très aveugle, et surtout, il la cherche, parce qu'elle a disparu quand même. Donc, il y a eu une assemblée des dieux fleuves, parce que Jupiter sévissant dans la région, beaucoup de jeunes nymphes sont menacées. Il la cherche, il ne la trouve pas, et il se pose aucune question face à cet animal. Mais donc, elle embrasse ses paumes, elle pleure, et lui, donc, ne comprend rien. Et en désespoir de cause, cette génisse, qui est vraiment très performante dans la communication avec d'autres espèces, elle va écrire son nom de la pointe du sabot sur la rive. Donc elle écrit son nom, c'est-à-dire qu'elle écrit deux lettres, I-O. Et I-O, en grec, ça veut dire « hélas ». On revient sur ce sens des mots qui est transparent pour un lecteur romain de l'époque qui connaît le grec. Donc I-O, hélas. Alors Inachus lit à haute voix, parce qu'on lit toujours à haute voix ce qui est écrit dans les Métamorphoses, ce qui donne après des réactions en cascade. Mais comme il lit en latin, parce qu'il parle latin, tous les dieux des Métamorphoses parlent latin, il ne va pas lire Io, il va lire hélas, et en latin c'est me miserum. Me miserum, ça veut dire pauvre de moi. Et quand il le lit, donc il comprend que c'est elle, mais il dit donc, au lieu de dire ma pauvre, pauvre chérie, qu'est-ce qui t'est arrivé ? Il dit pauvre de moi. Alors pourquoi pauvre de moi ? Pas parce qu'il est solidaire et malheureux pour elle, mais parce qu'il est malheureux pour lui. Parce qu'en fait, une fille, donc, dans les grandes familles aristocratiques romaines, et ce dieu fleuve a les préoccupations d'un père aristocratique, Une fille permet à la famille, donc, par un beau mariage, d'illustrer la lignée, de monter dans l'échelle, enfin, d'être à sa place. Quoi.
Et voilà, faire un beau
garçons,
mariage.
Les garçons marchent dans les pas des ancêtres et les filles font de beaux mariages. Et donc, lui, il espérait un gendre, des petits-fils. Et voilà que parce qu'elle est devenue vache, il va devoir la marier à quelqu'un du troupeau. Et là, ce qui est amusant, c'est que bien sûr, on retrouve une métaphore prise au pied de la lettre. Normalement, un père patricien dit « Il n'est pas question que tu épouses quelqu'un du troupeau, ça veut dire que tu ne vas pas épouser ce plébéien. » Mais là...
Quelqu'un du peuple.
Voilà. Ici, c'est vraiment un gendre à quatre pattes qu'il va avoir. Il n'y a plus le choix. Et donc, il se dit « Mais ce n'est pas possible. Je ne vais pas avoir pour gendre un taureau et pour petits-enfants, des veaux, c'est pas possible, pauvre de moi, pauvre
donc
de moi. »
Donc il ne pense qu'à lui. Finalement, la métamorphose ne vient pas tant révéler quelque chose de Yo, mais quelque chose en fait plus politique, plus familial. Et là, il y a une dimension comique, plutôt une charge critique.
Voilà, il est tellement englué dans son égoïsme, il ne pense qu'à lui, donc il n'a pas réussi à la reconnaître. Et quand il la reconnaît, en fait, il ne parle que de lui, que vraiment, il y a une charge comique très forte, qui est en même temps une dénonciation, évidemment. Et le lecteur est donc bouleversé par la détresse d'Io, parce que depuis le début, je rappelle qu'on a lu la métamorphose dans son corps à elle. Elle aussi, comme Lycaon, on n'a pas eu le temps d'y revenir, mais dans la première partie que vous avez lue à deux voix, elle essaye de parler, mais elle mugit. Et ensuite, quand elle arrive sur les bords du fleuve, son père, elle se voit dans l'eau. Et donc, elle voit ses cornes et ça lui confirme ce qu'elle avait déjà entendu, comme Lycaon quand il avait fait « ouh ouh », elle avait fait « me ». Et donc, la voilà face à ce père qui finit par lui dire « depuis que je t'ai retrouvé, je suis encore plus malheureux que quand je pensais t'avoir perdu pour toujours », ce qui est quand même pas très gentil. Comme scène de retrouvailles, on fait mieux. Et puis, il lui dit même...
L'avantage d'être sincère. C'est-à-dire que vraiment, il ne pense qu'à lui et qu'à sa position sociale.
Il lui dit même, et en plus, je ne vais même pas pouvoir mourir de chagrin puisque je suis un dieu et que donc les dieux sont immortels. Voilà, alors ça se termine comme ça pour ce discours. Et là, quand même, le lecteur se dit, mais ce n'est pas possible, il est trop égoïste. Et il y a un moment très frappant quand il lui dit, de toute façon, maintenant que tu es devenue une vache, je ne peux plus parler avec toi, tu ne peux que mugir en retour. Quand je te parle, tu ne peux que mugir en réponse tu n'es plus capable de discuter avec moi. Hein, donc il lui dit ad mea verba remugis, tu fais me pour me répondre. Mais si on est un peu malicieux, et le lecteur d'Ovide est invité en fait à décrypter les signes, comme vous l'avez dit tout à l'heure, donc en ce sens, Junon est plutôt une bonne lectrice, et on est aussi invité à bien comprendre ce que les mots veulent dire. S'il lui dit remugis, tu mugis en retour, peut-être on devrait mieux regarder comment lui-même, Inachus, parle à sa fille. Et il lui dit « Mais miserum, mais miserum ». Et en plus, derrière, on a des verbes qui expriment donc ses cris, ses plaintes, exclamat, ingeminat. Et il y a des jeux d'allitération,
De répétition sur le M, en fait.
De répétition, et il y a aussi des syllabes qui sautent, des jeux d'élision. Donc ça fait qu'en gros, il ne cesse de lui dire « Ma, 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 pauvre de moi,
c'est lui qui
moi,
fait
malheureux, me, me, me ». Et voilà, en fait, il ne fait que dire « me, me, me ». Il est tellement fier de son langage articulé. En réalité, il est beaucoup plus dans la répétition de cette syllabe « mou » qui fait qu'on peut dire que les bovins sont muets parce qu'ils ne savent que faire me, que Io elle-même, qui, je vous rappelle, maîtrise le langage écrit.
Et alors, il faut quand même signaler, parce qu'on va passer à... Le temps presse et on va passer à une troisième métamorphose. Il faut quand même dire que Io va retrouver sa forme primitive. C'est une des rares métamorphoses presque qui fait marche arrière, ou plutôt, en fait, qui avance. C'est-à-dire que, comme on l'a dit, rien n'est figé. Et donc, cette métamorphose a permis de révéler plutôt son entourage et elle va se révéler, s'accomplir en redevenant, en fait, ce qu'elle était déjà, à savoir une nymphe.
Voilà, elle va retrouver, parce que finalement, Jupiter va finir par amadouer Junon, promettre qu'il ne touchera plus à Io. Elle va retrouver sa forme humaine. Elle va retrouver à la fin, en dernier, l'usage du langage, qu'elle va utiliser timidement, parce qu'elle aura peur de faire me. Donc elle essaye de parler tout doucement, de peur d'entendre encore un mou sortir de sa bouche. Donc là aussi, c'est très amusant. Et elle va même connaître une promotion, puisqu'elle va devenir sur les rives du fleuve du Nil, où elle avait couru pour échapper à son destin tragique, elle va devenir la déesse Isis. Donc, elle va connaître l'accès au statut divin et elle va rester donc d'une blancheur éclatante puisque c'est une déesse honorée en Égypte qui porte des vêtements de lin et qui reste donc toute blanche, étincelante, comme elle était sous la forme de génisse.
« ne font pas bon ménage, ne vivent pas bien ensemble, majesté et amour. Le dieu pose le poids de son sceptre. Lui, père et chef des dieux, dans sa main droite, il porte les trois feux, secoue la terre d'un cygne, se fait la tête d'un taureau, se mêle aux bêtes, mugit et fait le beau sur les herbes tendres. Sa couleur est de neige, que les traces d'un pied dur n'ont pas foulée, que n'a pas fait fondre l'austère humide. Le cou montre ses muscles, le fanon descend aux épaules. Les cornes sont petites, c'est vrai, mais on les jurerait faites à la main, plus pures que des gemmes diaphanes. Aucune menace sur le front, rien d'effrayant dans l'œil. Une tête qui porte la paix. La fille d'Agénor s'étonne qu'il soit si beau, qu'il ne cherche pas la bagarre. Malgré sa douceur, elle a d'abord peur de le toucher. Bientôt, elle approche, elle tend des fleurs à la bouche blanche. L'amant se réjouit, avant le plaisir espéré, il donne aux mains des baisers. Il peine à retarder les autres. Maintenant, il s'amuse, saute dans l'herbe verte. Maintenant, il allonge son flanc de neige sur le sable roux. Peu à peu, elle n'a plus peur, alors il offre son flanc à la main caressante de la jeune fille. Offre alors ses cornes à entortiller de guirlandes fraîches. Elle ose, la fille du roi, elle ne sait pas qui elle touche, monter sur le dos du taureau. Le dieu, quittant la terre et le rivage sec, pose d'abord la trace de ses faux sabots dans les eaux, puis, plus loin, en plein milieu de l'océan, emporte sa proie. Elle a peur. On l'enlève, elle regarde le rivage qu'elle a quitté. D'une main tient la corne, l'autre est posée sur le dos. Tremblante, sa robe frissonne dans la brise.
Deuxième livre des Métamorphoses d'Ovid, lu par Colin Gruel. On va finir sur cette image, en fait, celle du rapt d'Europe, qui a donné le nom quand même continent dans lequel nous vivons, Maud Favre de Lay, et qui quand même, là, pour le coup, n'est pas une métamorphose qui révèle. C'est vraiment une métamorphose tromperie qu'on a l'impression de beaucoup lire dans ce livre d'Ovide, dans ce texte d'Ovide, qui est quand même qu'on se dissimule, on se métamorphose pour tromper les autres. Il y a quelque chose, et puis pour tromper notamment les femmes, et là, les enlever, comme c'est le cas d'Europe.
Oui, donc ici, c'est Jupiter qui se change en un beau taureau blanc, mais lui, effectivement, il va endosser la forme du taureau, donc le terme latin, c'est « induitur ». Il l'enfile comme un pyjama, en quelque sorte comme un déguisement, et au moment où il a revêtu cette forme de taureau blanc étincelant, Mugit, il mugit
en tête
mot. De verre. Mmh. Et ce qui est très amusant, c'est qu'il est présenté comme le dieu de la foudre. De sa foudre au triple dard, il fait trembler l'univers entier. Et là, ce qui va sortir de sa bouche une fois qu'il s'est changé en taureau, c'est il mugit. Mais en même temps, le fait qu'il mugisse comme ça en tête de verre, ça montre que sa métamorphose, donc son déguisement, comme vous l'avez dit, cette tromperie, ce trompe-l'œil est très réussi parce que la vache de Miron, c'était la statue animale la plus célèbre dans l'Antiquité, eh bien, on disait d'elle dans les épigrammes hellénistiques qui ont donc suivi, qu'on a chanté cette œuvre d'art du 5e siècle dans les siècles suivants, on disait elle est tellement ressemblante qu'on dirait qu'elle va mugir. Et ici, si Jupiter fait meuh, c'est parce qu'en fait le déguisement est très réussi. Mais c'est pas un taureau, bien sûr. C'est un dieu qui se cache sous cette forme. Il va s'approcher de cette fille du roi naïve qui se dit « Oh, le beau taureau, comme il est doux, mitis, comme il a l'air charmant. » Elle le caresse, elle lui met des couronnes sur les cornes.
C'est même assez érotique, hein, elle le chevauche.
Voilà. En fait, elle fait, sans le savoir, tous les gestes des préliminaires amoureux et lui exulte à l'intérieur de sa forme de taureau et attend la suite. Et le lecteur aussi attend la suite. On attend le récit. Mais ce qui est très intéressant dans ce passage, c'est que le poète se concentre sur tous les signes du fait que le taureau n'est pas un taureau. On disait tout à l'heure, ceci n'est pas une vache. Ici, ce n'est pas un taureau. Et par exemple, ses cornes sont si petites, on dirait qu'elles sont faites à la main.
Donc des signes à
décrypter. Elles sont translucides, ouais, comme si elles étaient en pierre précieuse. Et donc, on comprend qu'en fait, ce taureau, ben, ce n'est même pas un animal. Au fond, c'est une image. C'est comme si on était en train de regarder l'image du rapt d'Europe, parce que les métamorphoses d'Ovide ont aussi cette dimension, c'est un musée imaginaire, on nous décrit des œuvres d'art. On nous décrit peut-être une sculpture ou une peinture ou une pièce d'orfèvrerie en métaux précieux qui nous montre la jeune fille qui monte sur le dos.
Mais on nous demande aussi quand même d'en percevoir peut-être la donnée, la dimension dénonciatrice un petit peu, parce que c'est quand même un rapt là.
C'est un rapt qui est dénoncé parce que le dieu tire parti de l'innocence de la jeune fille, interprète tous ses gestes dans un sens érotique alors qu'elle est vraiment très naïve et pense apprivoiser un bel animal. Et en même temps, donc, dans cette dénonciation, vous avez toute la dimension esthétique d'arrêt sur image. À la fin, les vêtements d'Europe sont agités par le vent. On nous dit où sont ses mains, sur la corne, sur le dos du taureau. Et ça, c'est la description en fait, de l'image du rapt telle qu'elle est représentée, pareil, depuis l'époque archaïque jusqu'à l'époque romaine. C'est toujours cette image-là qu'on montre. En fait, Ovid rivalise avec la peinture et la sculpture. Il nous fait aller vers ce moment où elle chevauche le taureau, où le rapt s'accomplit. Et c'est ça qui résume le mythe. Et il va complètement laisser de côté la fin de l'histoire. C'est à nous de l'imaginer.
Merci beaucoup Maud Fafré-Delay. De vous, on peut lire Le bestiaire des poètes, la mise en scène animale chez Lucrèce, Virgile et Ovide. C'est chez Sorbonne Université Presse. Et c'est l'heure de retrouver le pourquoi du comment de Frédéric Worms.
Pourquoi critique-t-on les séducteurs ? La séduction est quelque chose de positif dans la vie humaine. La séduction est quelque chose de séduisant. C'est quelque chose qui nous attire, comme le dit le mot lui-même. Et quand nous trouvons du charme à quelqu'un, eh bien, nous ne pouvons pas critiquer. Ça fait partie des plaisirs de notre vie. Nous voulons être séduisants et nous aimons être séduits ou séduites parce que être séduit, c'est être sensible au charme de quelqu'un. C'est être sensible à une promesse de bonheur, comme on définit parfois la beauté elle-même. Et pourtant, nous critiquons le séducteur ou la séductrice. Quelle est la différence entre la séduction comme pratique, comme expérience qui est au cœur positif de la vie humaine, qui est une anticipation de l'amour? Quelle est la différence donc entre la séduction comme dimension positive de nos vies et les pratiques qui font que les séductrices ou les séducteurs sont critiqués comme étant des trompeurs, comme étant l'un des mécanismes de la tromperie, au sens où la tromperie est un danger fondamental de la vie humaine, non pas simplement un mensonge, une erreur propagée délibérément, mais une façon de manipuler autrui pour faire atteindre un but dans notre propre intérêt et parfois contre le sien en utilisant des mécanismes peut-être positifs au départ. Et bien justement, le séducteur, comme le Don Juan de Molière ou le Don Giovanni de Mozart encore plus, le séducteur, celui que critique aussi Kierkegaard dans sa magnifique étude du journal d'un séducteur, le séducteur, c'est celui qui séduit dans son propre intérêt à lui et sans jamais entrer dans une véritable relation amoureuse en mentant délibérément sur l'objet de sa séduction pour atteindre un but qui est purement manipulatoire et sans jamais entrer dans ce que Kierkegaard appelle le sérieux de l'amour. C'est la séduction pour elle-même, comme une sorte de rapt. C'est aussi l'image de la séduction, de l'emprise, de la captation de quelqu'un par un mécanisme plutôt que du plaisir et de l'attirance, de l'attrait. C'est quand l'attrait devient captation que celui qui séduit devient un séducteur. La séduction devient alors une technique délibérée de captation et de tromperie. C'est vrai aussi dans le domaine social et politique. Quand on utilise ce qu'on appelle des armes de séduction, on pourrait évidemment parler de techniques de séduction qui n'ont peut-être rien de critiquable en soi, mais seulement dans l'usage qu'on en fait pour tromper. C'est quand la séduction devient délibérément trompeuse qu'elle devient un danger mortel. Don Juan, qui va jusqu'au viol, il faut se souvenir que Don Giovanni de Mozart commence par une scène de viol. Don Juan séduit dans son propre intérêt, fait croire aux 1003 femmes qu'il a séduites qu'elles sont chacune la plus belle et chacune l'amour de sa vie, mais ce qu'il veut en tirer, c'est un abus de pouvoir, c'est une domination. Kierkegaard, d'une manière peut-être plus profonde encore, montre le malheur du séducteur. Le séducteur est dans une course effrénée à la séduction. Il construit son propre malheur en se servant de la tromperie sur les autres. Il fait que la séduction ne débouche jamais sur la relation profonde, sur le sérieux de l'éthique et même le tragique du stade religieux, l'amour absolu. La séduction, si elle se coupe de ce à quoi elle conduit, devient un des mécanismes de la tromperie humaine. Méfiez-vous des séducteurs, méfiez-vous des flatteurs, méfiez-vous des trompeurs.
Merci Frédéric et merci à toute l'équipe, Carla Michel, Anna Fulpin, Nassim El Kabli, Corinne Amar et Luna Hadjla, à la réalisation et à la lecture des textes, Colin Gruel, à la prise de son, Grégory Wallon. Pour retrouver toutes les émissions, rendez-vous sur le site de Radio France et sur l'application Radio France.